très belle nuit de basket. On espère que ça va donner un bon CQFR. Chat, il y avait plusieurs matchs et il y avait plusieurs matchs intéressants. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des belles perfs. Il y a eu du suspense. Il y a eu des matchs importants. Je te propose, pardon, d'ailleurs, qu'on commence avec l'affiche de la nuit. On reviendra après sur l'action de la nuit. Mais
Ouais.
d'abord, l'affiche de la nuit entre les Nuggets et les Celtics. Il y avait un gros parfum de finale NBA entre les Nuggets champions en titre, les Celtics premiers cette saison en NBA, grand favori aussi pour la finale. Et victoire de Denver, 115 à 109. Un match marqué par le triple-double, notamment Nikola Jokic, 32 points, 12 rebonds, 11 passes. Il y a eu 41 points de Jaylen Brown pour les Celtics, mais Denver a globalement bien maîtrisé son sujet, que ce soit enfin, du début jusqu'à la fin finalement.
C'est ça, à
Ils ont
part.
gagné les trois quart-temps, ils
Ouais.
n'ont pas gagné le quatrième. Boston est revenu un peu sur le fil, mais n'a pas réussi à recoller à plus que 3 points. Je crois qu'ils ne sont pas redescendus sous les 3 points.
C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est qu'en dehors du quatrième quart-temps où Boston a fait quand même un effort pour revenir dans le match, Denver m'a semblé quand même bien en maîtrise. Jokic, même entre deux, trois frustrations auprès du corps arbitral et de Tony Brothers notamment, a réussi à peser sur cette rencontre comme il sait le faire. J'ai bien aimé à chaque fois. De toute façon, c'est un des moves les plus mortels en NBA, les passes lobées pour Aaron
Pour
Gordon.
Gordon.
Ouais, c'est vraiment fort. Jamal Murray a été bon. Il a toujours cette capacité à mettre des shoots vraiment difficiles sans que ça paraisse difficile. Tu vois ce que je veux dire? Il l'a encore fait une fois ou deux. Je les ai trouvés vraiment bien. Boston, moins bien. Dans un match que tu perds de combien? 8 points? 9
Six
points?
points.
6 points.
6 points.
6
Cent quinze,
points.
cent neuf.
Et il rate 9 lancers francs, dont
Ah, il
7 pour Jaylen Brown, qui à côté de ça, fait un très bon match d'ailleurs. Il finit à 41 points. Il a été bon, plus que Tatum, qui a été pas très en vue. Et d'ailleurs, les journalistes l'ont un peu questionné là-dessus, sur cette espèce de lutte pour le MVP qui, lui, l'intéresse pas du tout de son propre aveu. Et là, si toutefois on voulait rapporter ça à une course pour le MVP, je pense que, bon, là, Jokic.
Enfin, c'est lui qui a dit. Là, cette nuit, il a dit qu'il ça l'intéressait pas du
Non,
tout.
bah, il a dit que c'était pas. En gros, il a fait comprendre. J'ai pas les termes exacts, mais il a dit que c'était pas important, que lui, c'était la chose collective qui l'intéressait. Et voilà.
Parce qu'il y a une semaine, il disait que c'était un trophée qui l'intéresse. Je pense que c'est vraiment un trophée qu'il veut.
Un jour, il sait que cette année, c'est mort, je pense.
Ouais,
Enfin,
bah là, ouais.
c'est pas que c'est mort, mais il voit bien la narration, il voit bien de quoi parlent les gens. Il sent un peu de quoi ce que voteront les journalistes qui vont voter. Je pense qu'il est conscient, et puis même, je pense aussi qu'il pense réellement que le collectif est plus important et qu'il préférera gagner un titre de champion qu'un titre de
Ah bah.
MVP. Donc c'est, mais bon, en tout cas, bon, c'est pas l'histoire de ce match, c'est pas juste un duel Tatum Jokic évidemment, parce que, mais c'est les Nuggets que j'ai trouvé vraiment en contrôle et solide. Et moi personnellement, c'est mon pronostic de finale depuis le début de la saison. Donc j'ai aussi trouvé ce petit avant-goût de finale, sans que ça ait le même impact évidemment, mais ça permet quand même à Denver de rester au contact et d'avoir des aspirations pour la première place de l'Ouest. C'est pas terminé pour eux encore.
C'est certainement les deux meilleures équipes de la ligue. Gros travail défensif de Kentavious Caldwell-Pope sur Tatum. Très bien défendu sur Tatum. Tatum, il finit donc à 15 points, 5 sur 13 et 8 passes décisives. Les Celtics, tu l'as dit, les lancers francs. Ils ont aussi manqué d'adresse à 3 points, mais ils ont quand même fait mieux que les Nuggets dans ce secteur. C'est un match intéressant, vraiment disputé. Après Denver, on l'a dit, était globalement au contrôle. Notamment, dans le deuxième quart-temps, ils font la différence. Il y a 13 points de Nikola Jokic. C'est le moment où il commence à creuser l'écart. Je crois qu'il y a 8 points à la pause. Il y en a 10 au début du quatrième. Les Celtics essayent de revenir, mais voilà, ne recollent pas complètement. Tatum sur le MVP. Moi, je défendais sa candidature cette semaine. En fait, je la défendais dans le sens où je trouvais qu'il était un peu sous. Je trouve qu'il est un peu sous-estimé dans la course au MVP. Je pense pas que qui puisse être devant Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, qui selon moi ont quand même une marge d'avance. Mais je trouve qu'il est un peu sous-estimé dans la course au MVP. Mais c'est vrai qu'il y a évidemment un aspect très narratif dans le MVP.
Toujours, bien sûr.
Parce que voilà, tout le monde ne regarde pas tous les matchs. C'est parfois dur de savoir qui rend les autres meilleurs. Donc forcément, on s'appuie sur des stats. Il y a un aspect narration qui rentre en compte. Et là, il rate une occasion sur l'aspect narration. C'est de marquer un grand coup quand tu joues les Nuggets chez eux à Denver.
Il
Et
y
c'est quand même
a
là.
un, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a un critère où là où il est sous côté, c'est que bon, chaque votant un peu donne l'importance qu'il veut aux critères qu'il veut. Il est indiscutable sur le côté meilleur joueur de la meilleure équipe de la saison avec le meilleur bilan. Ça, c'est indéniable. Donc il a raison d'avoir des prétentions, et tu as raison de dire qu'il est sous-coté dans cette course-là, parce que par réflexe, on parle plus de Jokic, de Shai et tout ça. Mais moi, j'ai pas eu l'impression qu'il le cherchait à tout prix, et je pense encore une fois que ça viendra. Je pense qu'il le sera un jour. Et que pour
Je
l'instant,
pense aussi.
l'essentiel, voilà, l'essentiel, c'est pour lui et pour cette équipe-là, c'est le collectif. Et Boston n'avait pas perdu deux fois de suite depuis le mois de novembre, hein, donc c'est collectivement, c'est quand même très très fort. Et il faut une bonne équipe de Denver pour leur infliger ça. Donc voilà.
Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il en prendra un moment. Et oui, y a pas, au final, il n'y a pas besoin de forcer. Juste sur Boston, c'est la deuxième défaite de suite. Je ne suis pas sûr que ce soit arrivé cette saison.
Bah, c'est arrivé, si, justement, c'est arrivé, mais pas depuis novembre. Ça leur est
Ok,
arrivé
c'était en
en
novembre,
début de
pardon.
saison,
Ouais.
mais en novembre, depuis novembre, ils n'avaient pas perdu deux fois de suite. Donc c'est énorme régularité pour les Celtics depuis le début de la saison.
Allez, on peut maintenant passer à cette action de la nuit. C'est le contre d'Anthony Edwards. La perf globale même d'Anthony Edwards, et ça c'est incroyable. Victoire des Timberwolves à Indiana, 113 à 111. Edwards y met 44 points. Il met le 3 points qui donne le dernier avantage à Minnesota à 1 minute et quelques de la fin. Mais surtout, il met un contre spectaculaire sur Aaron Naismith, si je ne dis pas de bêtises,
C'est ça.
pour la gagne. C'est-à-dire qu'il est sur la ligne des lancers francs, il reste quelques secondes, il rate son lancer, Edwards. Les Pacers prennent le rebond, filent en contre-attaque. On sait que les Pacers, c'est une équipe très rapide. Entre-temps, Naismith, il se retrouve quasiment au cercle, il a la possibilité, enfin, il est juste en train de monter au layup, il va arracher la prolongue. Tu vois, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il va le mettre ou le. Enfin, a priori, c'est vraiment un layup. Edward, il a sprinté tout le terrain, il s'envole littéralement et il cale un gros contre
Il est
pour
exceptionnel. Le contre,
assurer la
il est
victoire.
exceptionnel, le contre.
Allez.
Et sur le coup, je m'en suis pas rendu compte quand j'ai fait le CQFR écrit ce matin. Donc là, sans avoir revu 18 ralentis au début, tu te dis, le contre est splendide, il est décisif. Et sur d'autres angles de caméra, tu te rends compte de la dinguerie du contre, parce que il touche avec sa tête, il touche le cercle. Hein.
Ouais.
Il touche le cercle. Il a préféré défendre comme un malade au péril de sa santé plutôt que de laisser le mec arracher la prolongation. C'est en termes de caractère, c'est fort ce qu'il a fait. Sa fin de match, son match et sa fin de match. Voilà, tu disais 44 points. Le tir
Tire
à
trois points
un
sur
peu
la
plus
gagne.
d'une minute, un peu plus d'une minute de la fin, il leur permet de passer devant. Il a fait un truc de. C'est l'alpha de la meute, quoi.
Ah bah clairement.
On en va en parler, mais Karl Anthony Towns est blessé, alors que c'était celui qui faisait office de franchise player qu'Anthony Edwards arrive. C'est un gros coup quand même pour eux. C'est un gros coup dur de savoir qu'il va manquer a priori toute la fin de saison régulière. Et
Il y a
boum, premier match.
deux infos contradictoires là-dessus d'ailleurs.
Ouais, juste, on a parlé ce matin justement, mais dans tous les cas, c'est quand même un coup dur, parce que la dernière info, c'est que. Enfin, la première info, c'était hier, c'était déchirure au niveau du ménisque du genou gauche. Ils savent pas encore, ils étudient les différentes options. On sait que le ménisque, ça peut être 2 mois comme 6, 7 mois selon le type d'opération, selon la manière dont ton genou répond, tout ça. Donc sur le coup, c'était fin de saison régulière à coup sûr, et grosse chance de fin de saison tout court. Et là, avec les options qu'ils ont réussi à étudier, il va se faire opérer. Et il vise un retour en début de playoff. Donc la saison régulière, quand même, ça me paraît mort.
Oui, la saison
Voilà.
régulière, oui.
Mais en début de playoff, c'est-à-dire que au cours du premier tour, et sans doute après, s'ils arrivent à passer le premier tour. Donc ça reste conditionné à une bonne récupération, à une bonne convalescence, et à ce que tout se passe bien. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est un coup dur, parce que on a souvent rigolé sur Kat et sur ses déclarations et tout ça, mais cette saison, il est
Ah,
vraiment,
très
il est
bon,
très
une très
fort.
belle saison.
Il est très fort, et c'est pour ça que je dis que c'est un coup dur.
Mais c'est clairement un coup dur, tu perds ton deuxième meilleur joueur, donc. T'as raison, hein. Les Timberwolves. Je pense que pour gérer la fin de saison régulière, ça peut aller. De toute façon, on a vu que cette équipe, elle était aussi capable de bien fonctionner quand il y a Naz Reid ou Kyle Anderson qui se calent aux côtés de Gobert. Ils ont des ressources. D'ailleurs, j'ai découvert qu'ils avaient TJ Warren. Je n'avais pas du tout
Ouais,
oublié
ils l'ont
que
pris, ouais.
les Timberwolves avaient TJ Warren. Pour la fin de saison, ça va aller. C'est vrai que pour les playoffs, on aimerait qu'ils soient à 100%. C'est une équipe quand même qui est ambitieuse. Kat, s'il revient, il ne sera peut-être pas à 100% tout de suite. Mais en attendant, clairement, le patron, c'est Edwards. Sur ça, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, bon match de Rudy Gobert, hein, qui a joué 40 minutes, 18 points, 14 rebonds, 3 contres. Et Edwards, voilà. Edwards, c'est vraiment l'avènement d'un. J'ai lu un tweet assez sympa. Il y a un journaliste, au moment où il quittait la salle, il a vu un père dire à son fils: Là, tu viens d'assister à une légende qui vient de faire gagner un match. Tu vois, c'était un
Ah
fan des Pacers, je
ouais.
pense. C'était un mec
OK.
à Indiana qui a dit ça. Alors, je sais pas si Anthony Edwards deviendra une légende.
Pourquoi pas, alors.
Mais il est vraiment en train de monter en puissance.
Bah, tu vois, premier match sans. Bah, tu vois, ils auraient pu avoir la tête dans le seau. Kat qui est blessé, ils sont un peu deg. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, boum, 44 points, shoot décisif contre extraordinaire et décisif. C'est, pour moi, ouais, en termes de personnalité et de mental, je trouve que c'est un moment marquant. Ouais.
Yes. Allez, continuons. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'autres
ouais.
matchs très intéressants. On va passer à Dallas d'abord. Dallas qui a battu Miami. Il y a vraiment beaucoup de matchs cool. Dallas a battu Miami 114-108. Mmh. Dallas avait besoin de gagner. On va revenir un peu sur la discussion MVP parce que on a parlé de cet aspect narratif. Tatum, c'est un peu le côté meilleur joueur de la meilleure équipe. Jokic, meilleur joueur du monde. Doncic, alors bon, de toute façon, je pense pas qu'il dans sa tête, il est en train de. Je vais pas inventer. Je me dis pas que les joueurs le matin, ils se lèvent absolument. Ah, pour être MVP, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Je pense qu'il est surtout en mode, il faut qu'on gagne. Parce que les Mavericks sont à la course pour le top 6 et ils ont besoin de gagner. Ils étaient sur une mauvaise série. Mais Doncic, clairement, son argument, ça va être les stats. Des performances chiffrées, et il a enchaîné un cinquième triple-double à 30 points ou plus, le quatrième de suite à 35 points ou plus, ça c'est un record, 4 de suite à 35 ou plus, c'est-à-dire 35 points, 11 rebonds, 11 passes et victoire des Mavericks contre le Heat, 114-108.
Ouais, ils avaient besoin de ça, hein, parce que
ces
derniers jours, donc 3 défaites, et à chaque fois Luka avait beau faire des performances chiffrées exceptionnnelles, ça fonctionnait pas, et pourtant il leur manquait pas... Kyrie était là aussi, c'était difficile ces derniers temps, il leur fallait cette victoire. Et c'est grâce à un run en fin de match, parce que Miami les embête, hein, évidemment. Il y a Kyrie, d'abord Luka, ensuite Exum et ensuite Kyrie qui enchaînent des paniers pour leur permettre de réussir un run et de boucler le match. J'ai bien aimé Jason Kidd à la fin du match. Bon. De base, j'aime bien Jason Kidd, hein, c'est un secret pour personne, malgré les doutes sur ses compétences de coach. Moi, je l'aime toujours. Ils ont demandé évidemment ce qu'il pensait de la réaction de la perf de Doncic, et il a dit avec lui, vous voyez quelque chose d'aussi rare qu'un Picasso. Voilà. Il s'est senti l'âme poète, l'âme romantique. Mais on voit effectivement, c'est pareil, c'est le genre de joueur, il ne faut pas tenir ça pour acquis. 5 triple-doubles de suite avec au moins 30 points, c'est autant que Russell Westbrook, je crois. Il égale Westbrook. Voilà.
Il égale Westbrook.
Donc, je sais que maintenant, les triple-doubles sont un peu. Ça peut paraître monnaie courante dans la NBA d'aujourd'hui, mais ça reste, il faut se rendre compte que c'est quand même compliqué à faire. C'est pas tout le monde qui le fait. Et c'est pas tout le monde qui le fait de manière aussi prolifique et en faisant gagner un match comme celui-là.
Allez, on continue. Victoire de Chicago à Golden State, 125-122. Ouais. 33 points de DeMar DeRozan. Il en met 7 dans les 45 dernières secondes. Je vais venir à la fin du match. 33 points de Nikola Vucevic. Je trouve que les Bulls ont fait vraiment preuve de caractère. Parce qu'ils menaient de 10 points au début du quatrième quart-temps. Mmh. Ils se sont fait complètement reprendre par les Warriors. Les Warriors sont repassés devant. Donc, t'es à San Francisco, dans une salle où il y a de l'ambiance, contre une très bonne équipe. En tout cas, a priori, une très bonne équipe, champion 2022. Je sais qu'ils ne sont pas très bien classés, mais qui est sur une très bonne dynamique. D'ailleurs, les Warriors ne sont que 17-16 à la maison comme bilan.
Ils ont perdu tellement de matchs à domicile par rapport à d'habitude.
Exactement. Ce qui peut être un facteur qui explique aussi leur classement. Mais bref, donc Golden State est repassé devant. Il y a plein d'équipes qui généralement la lâchent, ou en tout cas Golden State qui vraiment prend le large. Et non, ils ont fait preuve de caractère. Les Bulls, ils ont repris l'avantage. Et dans les 45 dernières secondes, 7 points de DeRozan avec vraiment un enchaînement de paniers. Je n'ai plus l'ordre exact. Mais il en met un. Klay Thompson répond à 3 points. Puis DeRozan en remet un avec la faute. Et puis il y a Chris Paul qui marque. Et je crois que c'est Kobe White qui marque ensuite derrière. Il y a vraiment eu une fin de match assez folle et victoire des Bulls, 125-122.
DeRozan est méchamment clutch en ce moment. Dernier match, il avait déjà été décisif. C'était il y a 24 heures, non ? C'est ça ? C'était hier ? Je ne sais plus, ils étaient en back-to-back. Je me mélange, tellement il y a de matchs. Mais le dernier match, il est clutch. Dans tous les cas, il est ultra clutch au dernier match. C'était contre Utah. C'était hier, c'était contre Utah, donc ils étaient en back-to-back. Et là, ouais, l'enchaînement, il fait panier à 3 points, panier plus la faute. T'avais Klay Thompson juste avant qui pensait avoir fait gagner le match avec un shoot à 40 secondes de la fin. C'est là que c'est fort pour Chicago et pour DeRozan, c'est que tu as Klay Thompson qui marque, tu te dis « Ah, c'est beau, game winner de Klay, il avait besoin de ça », t'as la salle qui est en folie, la salle qui avait été un peu refroidie parce que un peu avant, Curry s'était fait la cheville, donc il était sorti. T'as Klay qui est un peu héroïque avec ce panier et derrière, la douche froide, et c'est aussi là que tu vois qu'un joueur comme DeRozan a un certain ADN de tueur particulièrement en ce moment, et c'est super pour les Bulls. Ça va dans le sens de ce qu'on disait hier sur le côté sur une série, les Bulls me font pas trop peur, mais sur un match ponctuellement comme ça, ils peuvent taper absolument n'importe qui, notamment les Warriors chez eux.
Ouais, non, très belle victoire de Chicago. Tu l'as dit, effectivement, blessure de Curry. Mmh. Curry qui est sorti sur la fin de match. Il n'était pas de toute façon dans un très bon soir. 15 points à 5 sur 18 et 3 sur 12 à 3 points. Mais effectivement, il faudra surveiller ça parce qu'il faut voir éventuellement l'absence. Alors j'imagine que de toute façon, c'est soit Chris Paul, soit Klay Thompson qui va repasser dans le 5 majeur. Mmh. Et Golden State a encore des arguments. Mais c'est vrai que voilà, les Warriors sont sur une fin de saison où l'objectif, c'est d'aller remonter le plus de place au classement. Si tu peux te permettre d'être huitième et d'avoir deux chances d'aller en play-off en jouant deux matchs de play-in, dans le pire des cas, plutôt que d'être neuvième, c'est intéressant. Mais pour ça, effectivement, il vaut mieux être à pleine puissance. Donc, on va surveiller ça pour Curry. Ouais. Au niveau des stats, Klay Thompson, hein, on l'a dit, il fait un gros match. Il met 25 points. Mm-hmm. Il a manqué des shoots, hein, mais il met quand même 25 points. Il fait plutôt un bon match. Il y a un triple-double de Draymond Green. 11 points, 10 rebonds, 12 passes. Ouais. Autre fin de match assez folle, il y en a eu plusieurs hein, du coup, c'est celle entre les Spurs et les Kings.
Ouais.
Alors, j'ai pas regardé parce que j'étais justement, je jonglais un peu entre, il y a plusieurs matchs qui sont finis en même temps, je jonglais un peu entre Boston, Denver et entre Chicago, Golden State. Mais à un moment, donc j'ai vu les Spurs avec 5 points d'avance. Je crois que c'est ça, je crois qu'il y a 5 points d'avance, genre 129-124.
À une minute de la fin, ils avaient 5 points d'avance, ouais.
Même un peu moins d'une minute, je crois. Il devait avoir un temps mort ou un arrêt de jeu à 50 et quelques. Je voyais sur le League Pass, je voyais 5 points d'avance. Je me suis dit, oh, c'est bien, ils ont gagné sans Wembanyama et tout. Tu vois, c'est propre. Et là, les Kings ont donc fini sur un 7-0. J'ai revu après. Ouais. Les Kings ont fini sur un 7-0. Et le plus cruel, c'est vraiment... c'est très bien joué de la part de Porzingis. De Sabonis. Ouais. Sabonis, à 7 secondes de la fin, quand il y a 129 partout, il vole un ballon et il va marquer le panier pour la gagne. Et ouais. Du coup, victoire des Kings... 31 points, 17 rebonds, 9 passes pour Sabonis, 33 points pour Fox, toujours le même duo qui fonctionne bien avec Malik Monk, 18 points en sortie de banc, lui pareil, et 9 passes aussi d'ailleurs. Et c'est lui qui met les deux paniers décisifs avant Sabonis.
C'est ça, c'est lui qui déclenche.
Donc c'est vraiment toujours le trio qui fonctionne bien du côté de Sacramento. Et du coup, San Antonio a laissé passer une occasion d'aller chercher une nouvelle victoire.
Les Kings ont failli être la première équipe cette saison qui perd un match contre les Spurs alors que Victor Wembanyama n'est pas là. Ils sont pas passés loin. Franchement, match valeureux des Spurs. On peut leur accorder ça. Et même après ça, après ce truc-là, Vassell et Sohan, ils ont eu des ballons aussi pour ne serait-ce que prolonger le match et ça a pas fonctionné. Mais les Kings ont eu très chaud, ouais. Les Kings ont eu très chaud et alors oui, il y a le panier de Sabonis qui est marquant parce que c'est décisif, qui fait encore un double-double, c'est le 45e je crois, plus que 8 et la 45e de suite hein, d'ailleurs, pardon.
Oui, de suite.
il est plus qu'à 8 double-doubles de la série de Kevin Love, on va le préciser à chaque fois. Mais c'est Malik Monk, j'ai toujours l'impression que c'est le mec le plus, c'est le microwave scorer le plus chaud de la ligue, c'est typiquement un barbecue à lui tout seul et il a encore été à l'origine du run des Kings.
Allez, je te propose deux matchs sur lesquels on peut passer en vitesse. Il y a la victoire des Suns contre les Raptors 120-113 avec 35 points de Kevin Durant.
En ce moment, il y en a un qui est bien chaud, c'est Grayson Allen aussi. Dans le genre,
lui, il fait une très belle saison.
Il fait une belle saison et il met 7 paniers à 3 points en première mi-temps.
8. Ah oui, 7 en première mi-temps et 8 au total.
Ouais. Il met 7 paniers en première mi-temps et il fait en ce moment, il est vraiment très très précieux, particulièrement en l'absence de Booker. Et les Suns ont bien besoin de lui. Ça fait deux matchs de suite que c'est KD et Grayson Allen qui font gagner les Suns. Hein. Il est extrêmement précieux. C'est pas que on le voyait comme un joueur un peu poil à gratter, un peu emmerdeur qui était là pour faire des sales fautes. Mais c'est un gros scoreur aussi.
Mais ça a toujours été un bon basketteur. Hein.
Bien sûr.
Depuis Duke, hein, c'était un très bon joueur à Duke.
Il y avait juste les fils qui se touchaient de temps en temps et il tendait la jambe pour faire tomber des mecs de manière un peu aléatoire, mais.
Mais c'est le genre de mec qui, justement, une fois arrivé 27, 28 ans, jusqu'à pendant un long moment, tout au long de son prime et même sans doute un peu après, c'est le genre de joueur qui sera utile dans des équipes qui sont ambitieuses.
Absolument.
Là, il a du ballon, il sait faire plein de choses. Donc. Et en plus, il a du vice, effectivement. Et on va terminer avec la victoire des Pistons contre les Nets qui ont, je pense, enterré la course au play-in du coup. Là. Détroit qui se détache de Washington. Ça y est, ils ont une victoire d'avance.
Tu l'as dit, ta prophétie se réalise.
Oui. Victoire 118-112 avec menée par les deux hommes forts de Détroit, hein, c'est-à-dire 34 points de Jaden Ivey et 32 points en passe de Kate Cunningham. Il y a aussi 12 points, 14 rebonds de Jalen Duren, 14 points d'Ozar Thompson. Là, les 4 que j'ai cités, c'est le futur des Pistons. Faut vraiment. D'ailleurs, voilà. Ils ont joué 43, 30, enfin, ils ont tous joué de grosses minutes, 39 pour Ivy, 38 pour Cunningham, 43 pour Thompson. Enfin, Monty Williams, il capte ça. Je ne comprends pas comment ça a pu mettre aussi longtemps. Comment c'est possible? Les Pistons n'auraient jamais... Enfin, ils n'auraient pas gagné 20 matchs.
Ils auraient moins perdu.
Ils auraient clairement moins perdu.
Ils ne seraient peut-être pas entrés dans l'histoire comme l'équipe qui perd le plus de matchs de suite. Que Cunningham et Ivy, vraiment, dans le quatrième quart-temps, ils se sont mis ensemble pour faire plier le match. Et je suis d'accord, je pense que Détroit aurait pu éviter de faire une saison aussi catastrophique. Peut-être que à terme ce sera une bonne chose pour eux. Peut-être qu'ils vont récupérer avec ce qu'ils vont récupérer à la draft, ça aura valu le coup. Mais entre temps, il y a eu des victimes collatérales, des joueurs qui sont partis et d'autres, des joueurs qui mentalement ont été affectés, je pense, par la série. Et on va espérer qu'ils rebondissent après.
Là, il leur manque un ailier, un peu à droit, c'est qui est capable d'étirer les lignes. Ils prennent un joueur comme ça, un pic comme ça ou un peu dynamique. Et ils ont leurs 5 majeurs parfaits. Ivy, Cunningham, Thompson, Duren et ce gars-là en question. Je sais pas, que ce soit Zachary Risaché, ce soit... Faudrait voir Cody Williams, son adresse extérieure. Après, je me souviens plus de tous les ailiers qui sont annoncés à la prochaine draft. Mais ils ont déjà un quatuor très intéressant, je trouve.
De toute façon, avec le coach, en termes d'expérience, le coach qu'ils ont et le talent qu'il y a sur le papier entre Cunningham, Ozar et Ivy... Ça doit l'année prochaine, on attend une progression, tu vois, comme des équipes ont fait petit à petit, type Orlando cette année qui est passé d'une saison où ils étaient déjà en progression à ça. Alors je dis pas que Détroit finira quatrième l'année prochaine, vu que c'est le cas d'Orlando qui lutte pour l'avantage du terrain, mais on veut juste, de toute façon, ce qu'on demande aux équipes en général, c'est pas quand il y a du tanking, c'est juste de travailler, d'avancer dans le bon sens. Là, Détroit commence, on donne l'impression de travailler dans le bon sens. Et malheureusement, Killian Hayes n'est plus là dans l'opération. J'aurais bien aimé le voir aussi rester là-dedans, même si c'était peut-être pas compatible. Mais Détroit intéressant. Et les Nets, les Nets qui nous ont fait croire pendant 2-3 matchs qu'ils allaient revenir dans la course au play-in et qui se sont s'offrir plutôt une fin de saison en roue libre.
Ouais. Ouais, Ben Simmons,
j'allais dire, il y a quand même l'info Ben Simmons qui est lié au Nets.
Et Ben Simmons qui saison terminée pour lui, il n'a pas eu la saison rebond qu'on espérait.
Non.
Ça se complique, c'est toujours son dos qui le gêne, il va essayer de consulter des spécialistes pour vraiment résoudre le problème. Alors, on pensait déjà que cette saison elle était charnière, je pense qu'elle l'était, mais l'an prochain c'est... être encore plus important parce que si je dis pas de bêtises, il sera en contractière.
Ouais, 40 millions la saison.
Et ce sera peut-être son occasion de vraiment redorer, enfin, ça peut-être sa dernière occasion d'aller chercher un nouveau contrat intéressant parce que je pense que quoi qu'il arrive, il arrivera à trouver un contrat à l'issue de cette saison, tu vois, à l'issue de la saison prochaine, je veux dire. Même si la saison prochaine, il joue pas beaucoup, je pense qu'il y aura quand même une équipe à l'été 2025 qui osera tenter Ben Simmons sur un petit prix. Mais s'il veut justement un contrat intéressant financièrement parlant, je pense que l'an prochain, il faut qu'il monte des choses et il faut qu'il joue pas mal de matchs.
Mais c'est le problème, c'est les blessures au dos. Qu'est-ce que c'est emmerdant, les blessures au dos? À chaque fois, tu as l'impression que ça part, ça revient en début de saison. Moi, j'y ai cru, où il expliquait qu'il était débarrassé de ses problèmes, que sur quelques matchs, on l'avait trouvé bien d'ailleurs. Il a dû jouer quoi, une quinzaine de matchs cette année. Il était pas mal quand il jouait. On commençait à retrouver un peu par séquence des choses qui avaient fait son succès avant. Et c'est un peu désespérant, c'est un peu déprimant. Et j'espère que, comme tu as dit, que ça contractire. Enfin, c'est dur à assumer, tu es en contractire, tu gagnes 40 millions, tu as joué 15 matchs là, tu as joué moins de 50 matchs sur quasiment toutes les dernières saisons, tu as fait une saison blanche. C'est très dur, ouais. J'espère qu'il va rebondir.
Yes, bon, ouais, on va s'arrêter là-dessus sur ces mots d'espoir. Moi aussi, j'espère qu'on verra Ben Simmons, quand même un joueur que j'aime bien. Un personnage particulier, mais un joueur très excitant à avoir joué quand il est à pleine puissance. Donc ça serait sympa de le revoir sur les parquets, c'est clair. On se retrouvera demain pour le 6e CQFR de la semaine, celui où on répond à vos questions. Alors bon, il sera trop tard là pour envoyer vos questions, mais à tout jamais, à tout hasard, je vous redonne l'adresse cqfr.reverse@gmail.com.
Ouais, vous pouvez nous envoyer même pour la semaine suivante, hein, y a pas de problème.
Voilà, c'est ça.
Alors là, c'est Théo ce coup-ci, c'est Théo qui nous pose les questions, il est là, sauf forfait de dernière minute. J'espère ne pas nous porter l'œil, mais c'est Théo qui nous posera les questions pour le CQFR de demain.
Tout à fait. Bon, allez, on se retrouvera du coup demain. Bonne journée à tous.
Yes, ciao, bonne journée.